Prologue. Mars 2011. La taille pouvait correspondre. L'âge, certainement. Quant au physique, il était difficile d'être affirmatif. Le vieux Simon décrocha son téléphone et, avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire naître trop d'espoir, annonça « J'ai peut-être une piste ». À l'autre bout du fil, la voix de la vieille dame ne se fit pas plus forte qu'un souffle. « Camille ?»«
Sans certitude, madame. »
Avant de raccrocher, Simon indiqua à son interlocutrice l'heure et l'adresse du rendez-vous, à la morgue de l'Institut médico-légal de Paris. Découverte à moitié nue, sans vie et sans identité, dans un squat de la commune des Lilas en Seine-Saint-Denis, elle devait avoir 20 ans, au maximum. À l'autopsie, le docteur Léa Marquand l'avait entaillée de la base du cou au pubis, d'un trait de scalpel, sans forcer plus qu'une caresse. Dans son corps ouvert se lisaient les effets d'une consommation abusive de drogue et d'alcool, ainsi que le résultat de relations sexuelles si violentes qu'on ne pouvait les imaginer consenties. Jamais auparavant dans sa carrière de médecin légiste, elle n'avait utilisé l'expression de « délabrement périnéal massif ». Comment en était-on arrivé là? Quelle barbarie avait-elle dû subir pour qu'il n'y ait littéralement plus de parois entre le vagin et l'anus? Dans les siennes, elle avait pris ses mains salies, frôlé ses cheveux puis passé le bout des doigts sur les blessures de son visage. Elle avait regardé alentour, car ces choses-là ne se font pas. Elle avait ôté ses gants en latex et recommencé les mêmes gestes. Elle s'était laissée aller au pire des maux de son métier, l'empathie. Alors, quand, au hasard de sa lecture, elle avait vu quelques jours plus tard sur l'agenda de l'IML, l'Institut médico-légal, qu'une reconnaissance par un membre de la famille était prévue, Léa Marquand avait voulu en assurer le déroulement. Rien n'obligeait la légiste, mais elle y tenait. Pour elle. Et pour elle aussi. À la levée du drap, les réactions sont diverses et imprévisibles. De la souffrance à faune qui pénètre et enlève toute force, à ne pouvoir que se laisser choir, à moins que ce ne soit juste le sol qui s'ouvre sous les pieds. De la rage vengeresse qui ne sait que refuser et cherche une cible pour tirer à boulet rouge. De la peine larmoyante et bruyante jusqu'à l'agacement. Du calme impassible qui augure des plus gros orages. La légiste vit arriver les trois visiteurs. Elle ne reconnut aucun d'entre eux et déduisit que celui qui dépassait les autres d'une tête et demie, avec ses allures de catcheur à la retraite, devait être le flic du SDPJ, le service départemental de la police judiciaire. Il économisa ses mots. « Lieutenant Mathias Aubin. »«
Bonjour, lieutenant. Docteur Marquand. Le capitaine Coste n'aime plus notre service ou vous êtes puni ?»«
Juste une affaire que je voudrais terminer. Le capitaine m'a chargé de vous saluer. » Elle ferait avec. Dommage, elle préférait Coste, plus discret avec son regard bleu un peu triste. Elle se présenta à la famille. Tout d'abord à la vieille dame en fauteuil roulant, puis au jeune homme qui le poussait, les invitant à la suivre jusqu'à la morgue. Le flic leur emboîtait le pas, silencieux comme une ombre. Ils s'enfoncèrent dans les sous-sols de l'IML, et elle ouvrit les portes d'une grande pièce, froide et silencieuse, comparable à une salle de coffre, faite de rangées de portes carrées d'environ 70 cm de largeur, chacune donnant sur une vie, une histoire et une fin. En quelques cliquetis de verre, les néons éclairèrent la morgue. Elle vérifia dans son dossier le numéro d'enregistrement et, parmi les 450 cases de froid présentes, ouvrit la porte contenant le corps 11-1237. Elle tira la table roulante, révélant une forme humaine sous un drap blanc. Du regard, elle interrogea la famille et crut déceler de l'appréhension dans leurs yeux. Elle retint son mouvement un instant, la main posée sur le tissu, puis elle baissa doucement le linceul de manière à ne montrer que le visage abîmé. Le flic imposant qui les accompagnait avait tenté de les prévenir quelques minutes plus tôt. Le corps qu'ils allaient voir était celui d'une toxicomane qui avait peut-être été leur fille et leur sœur, mais qui avait certainement changé, vieilli, et s'était usé dans un mode de vie marginal. Il avait volontairement choisi de passer outre aux sévices sexuels, ces précisions ne s'imposaient pas tant qu'il ne l'avait pas formellement reconnu. Cependant, aucun avertissement, ni aucune préparation n'aurait pu leur éviter le haut-le-cœur qui les saisit lorsque le visage fut découvert. Prisonnière de son fauteuil roulant, la mère poussa de ses bras sur les accoudoirs et comme elle put sur ses jambes fragiles,
afin de se donner un peu de hauteur. Sa voix, autoritaire et malgré tout perceptiblement blanche, assura qu'il ne s'agissait pas de sa fille. Le fils n'émit pas un son. La figure était si tuméfiée qu'une possibilité d'erreur restait envisageable. La légiste abaissa alors totalement le drap sur un cadavre tacheté d'hématomes, de griffures, de plaies mal cicatrisées en croûte brune et de traces du passage d'un millier de seringues dans des cratères noircis et infectés. La vieille dame en serra dans sa main celle de son fils et d'une voix plus assurée, comme résignée, affirma de nouveau que la personne allongée devant eux n'était pas leur Camille. Toujours à son côté, le fils avait entrouvert les lèvres sans poursuivre la phrase qu'il s'apprêtait à formuler, et seul un soupir s'en échappa. Le docteur Léa Marquand savait que l'éventail connu des réactions possibles devant un cadavre était infini. Toutefois, elle ne put s'empêcher de recouvrir prestement le corps nu que ce jeune homme fixait avec un grain de quelque chose de malsain. D'autant plus qu'il assurait ne pas le reconnaître. En retrait, le flic sortit de sa mallette un procès-verbal, cocha la mention « reconnaissance négative », puis le fit signer aux deux visiteurs. Il avait pourtant espéré pouvoir donner une famille à cet anonyme. Il se proposa ensuite de les raccompagner, ce qu'ils refusèrent poliment. Une fois dans le taxi qui les conduisait à leur domicile, dans les hauteurs de Saint-Cloud, ils n'échangèrent aucun mot. La mère se refusait à toute culpabilité. Elle avait agi pour le bien de la famille, quitte à devoir le payer de son âme si un dieu, un jour, venait à le lui reprocher. Recroquevillé, le fils s'était concentré sur sa respiration. Il redoutait de se vider entièrement sur les sièges en cuir à chaque virage du taxi. Le cœur posé sur les lèvres, il sentait son énergie le quitter, les extrémités de son corps envahies par un fourmillement de ceux qui précèdent les malaises. Il partit une seconde ailleurs et mit un moment à se souvenir où il était et ce qu'il y faisait. Camille. Il l'avait reconnue lui aussi. Sa Camille. Sa presque sœur. Il l'avait reconnue et s'était tue.